Bonjour, vous êtes sur Radio Campus pour une heure d'émission politique avec Panthère Rouge, présentée par Lise, Claire et Clément au micro et Nina à la technique. Jour, c'est le 8 mars, la journée du droit des femmes, et non pas la journée de la femme, comme aime l'appeler le système capitaliste de consommation, qui nous laisse entendre que le 8 mars, tu achètes des fleurs et tu fais la vaisselle en laissant sortir une bonne grosse remarque misogyne à la « aujourd'hui, je suis sympa, c'est Dudule qui fait la vaisselle, une journée pour la femme, et puis 364 pour Dudule, moi Ah ah ah, c'est tellement drôle les femmes qui se tapent tout le travail de la maison. C'est tellement drôle ce système inégalitaire où les femmes bien éduquées intègrent complètement leur rôle de servante domestique et où l'homme peut justifier cette inégalité dans les tâches ménagères par un « mais c'est elles qui veulent faire ». Nous parlions donc de la Journée internationale du droit des femmes et de manière générale, les âmes bien pensantes comprennent bien que dans plein de pays, les conditions des femmes ne sont pas tip-top et qu'il y a encore beaucoup de luttes à mener pour que celles-ci soient traitées à égalité avec les hommes. Mais en France, se dire féministe sonne mal, même très mal, comme si le féminisme était une tare et la féministe une misandre castratrice, casse-couille au sens propre et figuré de la chose. À quoi est due cette vision du féminisme ? À la télé et autres médias, évidemment, qui se sont amusés pendant des années à détruire la cause des femmes en affichant des portraits de vieilles connes pour représenter le féminisme français. C'est un peu normal ensuite que le mot fasse grincer des dents. Mais le féminisme, ce n'est pas ça. Par exemple, moi, qui adore les hommes et qui ne voudrais pour rien au monde heurter leurs testicules, je suis féministe et je le serai tant que les femmes continueront à se faire violer, tant que les violences conjugales existeront, tant que l'idéologie de la supériorité intellectuelle des hommes sur les femmes n'aura pas complètement disparu, tant que nous n'aurons pas un droit complet à disposer de notre corps et un accès à l'avortement facile, gratuit et dans toutes les villes de France. Et pour ceux qui pensent que la condition de la femme s'améliore petit à petit, comme ils disent, je suis au regret de vous informer que non, non, non. Par exemple, avec la destruction progressive du système de santé français, l'accès à l'IVG est de plus en plus compliqué, puisque rien n'oblige les hôpitaux à pratiquer cette procédure peu rentable. Beaucoup ont fermé leurs services d'IVG. Par exemple, l'hôpital de Montreuil, qui en pratiquait 1000 par an, a vu arriver un chef de service qui s'oppose à la poursuite de cette activité. Et dans beaucoup de petites villes, lorsque ces services ferment, cela signifie que les femmes qui souhaitent se faire avorter sont obligées d'aller dans une autre ville et à savoir que deux rendez-vous sont obligatoires. On comprend les difficultés que les femmes rencontrent pour se faire avorter, surtout lorsque l'on est mineur. Donc l'association féministe en mouvement propose 10 mesures d'urgence. 1. Créer un ministère d'État des droits des femmes dans un gouvernement paritaire. 2. Réaliser l'égalité professionnelle et salariale avant 2017 en engageant une revalorisation des métiers à prédominance féminine et en majorant les cotisations sur les temps partiels. 3. Créer une haute autorité contre les violences faites aux femmes avec un observatoire national dédié. 4. Rembourser l'IVG à 100% et ouvrir 100 nouveaux centres d'IVG. 5. Ouvrir 500 000 places d'accueil en crèche dans les 5 ans. 6. Multiplier par 4 le nombre de places d'hébergement spécifiques pour les femmes victimes de violences. 7. Assurer dans les 3 ans à chaque professionnel le intervenant dans le champ éducatif, une formation à égalité filles-garçons et à déconstruction des stéréotypes sexistes. 8. Reconnaître le droit à l'adoption pour les couples de même sexe et le droit à l'aide médicale à la procréation pour les couples de lesbiennes. 6. Supprimer le délit de racolage passif, mettre en place des mesures de prévention et d'éducation, pénaliser les clients prostitueurs et accompagner les personnes qui souhaitent quitter la prostitution. 10. Garantir la délivrance et le renouvellement du titre de séjour aux femmes étrangères victimes de violences. Donc dans 4 jours, le 8 mars, journée anniversaire pour les luttes des femmes. Bon anniversaire à tous. toutes et à tous, car le combat pour les femmes n'est bien sûr pas réservé qu'aux femmes. Mais revenons sur l'émission d'aujourd'hui. Clément et Lise vont nous parler d'Égypte, du bilan de la révolution et des perspectives à venir. Puis nous appellerons Julien Salingue pour parler d'un colloque organisé à l'Université Paris 8, Israël, un état d'apartheid, qui fut annulé, puis non annulé, puis délocalisé, puis relocalisé. Mais pourquoi ? Pourquoi donc ? Émission Panthère Rouge jusqu'à 19h. Alors bonjour Lise, bonjour Clément.
Bonjour, les auditeurs.
Bonjour les auditeurs, bonne fête mémé. C'est la fête des mémés aujourd'hui.
C'est ta mémé, t'écoute.
Alors vous vouliez parler d'Égypte, si je me trompe.
Voilà, d'Égypte. On revient sur l'Égypte un an après la révolution et on essaie de tirer le bilan, de savoir si c'est vraiment une révolution, se poser la question déjà. Alors moi, je vais commencer par revenir sur cette année et puis Clément continuera sur les perspectives peut-être, qu'est-ce qui est en train de se faire en ce moment. Alors oui, est-ce que c'est une révolution ? Déjà, le terme révolution, c'est un terme qui sous-entend quelque chose d'émancipateur. Et alors pour l'instant, c'est vrai qu'on peut poser la question parce que le pouvoir est détenu avec encore plus de fermeté par l'armée et les conditions de vie ne sont en rien améliorées. Mais d'un autre côté, le fait d'avoir tant manifesté et d'avoir obtenu la fuite de Moubarak, c'était sortir d'un immobilisme, ce que personne ne concevait il y a un an. Immobilisme cimenté par une idéologie, un quotidien qu'on croyait immuable. Alors tu vas me dire, c'est toujours comme ça, hein ? L'immobilisme, bah, c'est quand on est...
Dans un système, on n'arrive pas à avoir autre chose.
On est dans notre quotidien et c'est le quotidien qui décide pour nous, même si on sent bien qu'il y a des choses qui déconnent. Et là, les Égyptiens sont sortis de cet immobilisme en janvier 2011. Et depuis, il n'y a pas eu d'idéologie ou quelque chose qui les renvoie chacun dans leur quotidien. Au contraire, la prise de conscience énorme qu'ils ont eue sur le fait que leur société marchait sur la tête et qu'ils pouvaient participer à reconstruire cette société avec la tête à l'endroit est toujours présente en eux et voire pour certains a encore plus mûri. Alors durant cette année, il y a deux événements majeurs sur lesquels j'aimerais revenir. Éléments qui auraient pu ou qui sûrement voulaient se devaient de calmer les foules et qui en fait les a rendus encore plus critiques et revendicatives. Et ce sont en fait deux massacres. Le premier, c'est le massacre de Maspero le 8 octobre. C'était une manifestation pacifique qui était organisée suite au silence de l'armée après l'incendie d'une église. Ce jour-là, l'armée a tué 28 civils, des centaines de blessés et arrêté 30 personnes. Deux jours plus tard, le Conseil suprême des forces armées a tenu une conférence de presse dans laquelle ils disent que les soldats n'avaient pas de balles réelles et que les tanks qui roulaient à toute vitesse et qui passaient et repassaient dans la foule en écrabouillant les gens... en fait, ils ne savaient pas où se cacher, c'est tout ce qu'ils faisaient. En fait, ils essayaient d'éviter la foule.
C'était des gentils tanks, en fait.
Voilà. Et trois semaines plus tard, les forces armées ont convoqué 12 civils qui seraient responsables du massacre. Et donc, ils ont peur de rien, en fait, parce que maintenant, on a beaucoup d'images sur Internet. Et notamment, il y a un collectif Mosren, donc je vais en reparler tout à l'heure, qui a fait un petit film qui montre bien que c'était un massacre. Et on voit bien donc les tanks de l'armée qui roulent vraiment à 50 km/h au milieu de la foule, qui font demi-tour et qui roulent à 50 km/h au milieu de la foule. Les gens qui se font écraser, c'est vraiment... faut pas regarder ça au petit déjeuner comme moi. Le deuxième massacre, je continue... C'est le 2 février dernier, au stade de Port Saïd. Vous en avez entendu parler sûrement ?
Oui.
Voilà. Alors c'est marrant aussi, peut-être on reviendra sur ces massacres dont on a parlé dans les médias, sur comment on en a parlé. Alors, Port Saïd, c'était quoi ? C'était un match de foot. Après un match de foot, je dis que c'est un massacre parce qu'en tout, il y a eu 74 morts et 1000 blessés. Et que s'est-il passé ? Donc c'était un match entre l'équipe El Masri et Al Ahly. Donc l'équipe Al Ahly était la favorite. Pourtant, c'est l'autre qui gagne. Et au coup du sifflet, ce sont les supporters de l'équipe qui a gagné qui ont envahi le stade. Et c'est bizarre, hein. Bon, bref. Donc ils envahissent le stade. Et donc après, les gens sont entretués. Mais il y a des témoignages troublants. Donc il y en a un jeune là qui raconte « Un grand nombre d'hommes sont entrés au stade sans ticket. » Alors raconte Hossan Tataoui, 19 ans, qui est supporter de El Masri. « Il n'y a pas eu de fouille à l'entrée comme d'habitude. Les hommes de main ont pu faire entrer des armes blanches très facilement. Pour lui, il ne fait aucun doute que les policiers que l'on voit ne pas réagir au moment de l'attaque sur les images de télévision sont complices du massacre. Une horde... armé de couteaux, de bâtons, de bouteilles déferlent sur le terrain. Ahmed Gaffar, donc un autre supporter du club Al Ahly, qui a été assez choqué par ces images terrifiantes, a assisté. Qu'est-ce qu'il raconte ? Lui, il dit « Lorsque l'arbitre a fait entendre le coup de sifflet final, les cordons de police qui protégeaient les gradins des supporters d'Al Ahly se sont brusquement ouverts. » Il racontait ça sur son blog sur Internet. Quelques minutes plus tard, toutes les lumières du stade se sont éteintes. Nous avons couru vers les couloirs pour sortir du stade, mais toutes les issues étaient fermées, la police en gardant les portes à l'extérieur, et nous sommes retrouvés piégés. Donc après ce massacre, le maréchal Tataoui a lancé des appels ambigus au peuple égyptien pour qu'il participe à la chasse aux responsables. Le peuple connaît les coupables, a-t-il ajouté. Bref, l'armée égyptienne, quand elle ne tue pas, incite les Égyptiens à s'entretuer. Et alors, en fait, ouais, les deux événements, je vais en parler juste deux minutes, les deux événements ont été traités dans les médias d'une manière un peu étrange. Le premier, là, le massacre de Maspero, on a vu dans les médias que c'était des troubles interconfessionnels, que c'était des problèmes entre les religions. Alors que, bon, soit, en fait, il y a eu cette manifestation suite à l'incendie de l'église, mais même, on peut se demander si c'était pas une provocation, parce que ils avaient décidé de charger cette foule, de faire un massacre. Et pour le stade, ben, de même, en fait, ça a été médiatisé en disant, bon, ben, les ultras, c'est des ultra-violents, c'est des oligans, ils s'entretuent, c'est la montée de la misère, les gens deviennent fous, ils s'entretuent entre eux, quoi. Voilà comment c'est... En fait, on est obligé d'aller chercher un peu sur les blogs des gens pour comprendre ce qui se passe vraiment. Bon, et alors, donc en fait, ça n'a pas marché. Ils voulaient un peu casser le mouvement, mais au contraire, après les deux massacres, il y a eu un regain chez les Égyptiens. Ils sont redescendus dans la rue, ils ont organisé des manifestations monstrueuses, et pour beaucoup d'Égyptiens, un an après, en fait, la révolution continue. Et dans les rues, il y a des nouveaux slogans qui sont apparus, tels que « Nous n'avons pas faim ». C'est marrant, ça. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Je ne sais pas, que ça veut dire tu...
C'est pas la c'est pas des revendications... économique, non, enfin
Eh ben, en fait, pour eux, ça veut dire que ils font pas, ils manifestent pas pour du pain, un peu en réponse à la tendance qu'on a peut-être à penser que les pauvres, ils pensent seulement à leur estomac. Non, en fait, ils ont des revendications plus que leur estomac, ils ont des revendications politiques. Alors, je vais vous faire écouter une interview d'un écrivain, Khaled Al-Khamisi. Pour lui, le peuple a fait une révolution psychologique. À défaut d'avoir encore changé la politique et l'économie, il a changé d'état d'esprit et par là, toujours imaginatif dans ses luttes et surtout incapable de retourner s'enfermer dans un immobilisme. Écoutons.
Les 18 jours du 25 janvier à Ansevéry jusqu'à la chute de Moubarak, c'était un rêve. On a tellement parlé de cette civilisation millénaire, mais moi personnellement, je ne l'ai jamais vécu et je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais salué. Et c'était seulement des rumeurs. Mais ces 18 jours, j'ai vraiment vécu, salué, embrassé cette civilisation millénaire qui était vraiment là, dans les rues. Le peuple égyptien a tout à coup émergé sa sagesse populaire millénaire. C'était vraiment le rêve. Et dans ce temps, le 11 février soir, moi personnellement, je rêvais, comme tout l'Égyptien, pleurais et rêvais d'un demain différent. Et surtout, une nouvelle idée du politique. C'est ça, vraiment, le rêve du 11 février, le soir. Une année est passée, je peux dire très clairement que cette année était catastrophique. Depuis la première seconde après la chute de Moubarak, le Conseil suprême de l'armée a mené une période transitionnelle, pas vers la démocratie, mais vers... un système politique du 19e siècle. Le 25 février, l'armée est descendue dans la place Tahrir pour attaquer les gens par des bâtons d'électricité, bâtons électriques. Et le même jour, 25 février, il y avait des gens qui sont entrés aux prisons. Deux jours après, c'était la même chose. Le 8 mars, c'était le jour international de la femme, ou la fête internationale de la femme, et c'était un jour aussi catastrophique dans toutes les places de l'Égypte contre la femme. Le 9 mars, il y avait le test imaginaire de la virginité contre les femmes, et je ne veux pas continuer jour après jour, mais ce qui s'est passé jour après jour, c'est des attaques contre la liberté, contre la femme, contre les Coptes, contre le rêve, contre la révolution. Et donc, c'était une année, je vais répéter, catastrophique. Aujourd'hui, le point de vue des gens qui sont descendus dans les rues le 25 janvier 2011, ils sont aujourd'hui persuadés, ces gens-là, que, pas, je ne peux pas dire rien n'a été fait, mais très peu de choses ont été faites. Et qu'il y avait quelque chose de solide. C'était une révolution culturelle, une révolution psychologique dans l'âme du peuple égyptien, que on peut agir, on peut faire, on peut changer les choses. Cette petite phrase, simple phrase, on peut, d'abord, on peut changer, on peut réagir, c'est quelque chose de primordial. les gens qui sont descendus dans les rues le 25 janvier 2011, aujourd'hui sont persuadés qu'ils doivent continuer. Ils vont descendre dans les rues le 25 janvier 2012 pour demander la même chose, la liberté et la justice sociale et la dignité.
Khaled Al-Khamisi, un écrivain égyptien donc, et il n'est pas le seul écrivain à prendre position. Ainsi, une conférence d'écrivains sur les rapports entre littérature et révolution s'est tenue le 18 janvier 2012 à Tanta. Et en plus des écrivains, il y a un mouvement de cinéastes. Les caméras sont devenues un véritable outil d'activisme. En particulier, Mosirène, dont je parlais tout à l'heure, qui veut dire « déterminé », est un collectif de cinéastes sans but lucratif, basé au Caire, et né de l'explosion du journalisme citoyen, qui a produit et mis en ligne les vidéos les plus vues sur YouTube en Égypte. Et donc, ils ont montré surtout les films Place Tahrir, où ils avaient planté leur tente. Et donc, nous, on mettra une des vidéos de ce collectif sur notre audioblog à propos du massacre de Maspero. C'est une vidéo qui est chouette parce qu'elle est en anglais, on comprend tout. Récemment, plusieurs vidéos de ce collectif ont montré les dernières manifestations suite au massacre de Port Saïd. Ils intitulèrent ces vidéos « La révolution continue » et c'est bien ça, « La révolution continue ». Et donc, on continue donc sur ce thème avec Clément, qui explique un peu les enjeux entre les différentes franges de ce mouvement, donc en particulier les mouvements plutôt ouvriers, les ultras, et puis plutôt l'élite, ceux qui utilisent Facebook, les étudiants.
Voilà. Alors, en fait, je vais prendre l'exemple de l'appel à la grève générale et à la désobéissance civile du 11 février. Qui a un résultat, on peut dire, plutôt mitigé, en fait. Donc cet appel venait plutôt, comme tu l'as dit, des étudiants via les réseaux sociaux, type Facebook. Ça venait plutôt du cyberspace, disons. Et c'est un monde qui n'est pas vraiment celui des travailleurs, des ouvriers. Et en plus de ça, les revendications faites par les jeunes et les jeunes révolutionnaires et les ouvriers, en fait, leurs revendications diffèrent. Par exemple, les ouvriers, leur priorité, ce serait plutôt de dégager ce qu'ils appellent les petits moubaraks. Ils demandent ça depuis un certain temps maintenant. C'est-à-dire que c'est un système qui est assez corrompu, en fait, et du coup, de virer tous ceux qui étaient liés plus ou moins au système moubarak. Alors que les étudiants, eux, c'est plutôt, ils ont exigé des élections et ils demandent maintenant un gouvernement remis aux civils et des élections présidentielles immédiates.
Mais bon, ça peut se rejoindre aussi, en fait. C'est que
comment... Oui, ça peut se rejoindre, mais en fait, le problème, c'est que c'est d'où est-ce qu'on part pour faire ça. Et pour les ouvriers, il faut plutôt partir du bas pour aller vers le haut. En fait, nettoyer du bas vers le haut, alors que les étudiants ont plutôt des revendications des exigences qui touchent au sommet.
Pour les étudiants, il faudrait faire une constitution et élire des nouveaux partis, quelque chose comme ça, et refaire une constitution.
Et voilà, et simplement, juste que l'armée rentre dans ses casernes, disons, alors que pour les ouvriers, ce serait plus un nettoyage à tous les niveaux, en fait.
De la bureaucratie.
Voilà. En gros, ce que veulent les ouvriers, c'est la liquidation de tout l'appareil économique, ce que je disais, et politique du système de bas en haut, et les jeunes s'attachent encore à des modifications, donc au sommet. Ce n'est que depuis janvier qu'on voit des jeunes révolutionnaires découvrir les revendications des ouvriers, de dégager tous les petits moubarak, entre guillemets, et pas seulement les militaires. En fait, il y a un vrai dysfonctionnement, enfin, il y a un vrai problème de communication entre les ouvriers et les étudiants. C'est selon les étudiants, l'appel à la grève générale, en fait, serait mitigé parce que les ouvriers ne sont pas assez politisés, qu'il n'y a pas parmi eux suffisamment d'organisation comme chez les étudiants. Et donc il faut construire cette organisation, bref, parce qu'ils n'ont pas assez compris et qu'il faut donc leur expliquer ce que eux, les jeunes étudiants, viennent
les
tout juste
élites.
De comprendre. Voilà.
Ils se la pètent un peu, quoi.
Ils se la pètent, ils se la racontent, ils friment, ils crânent.
Rester dans une démocratie représentative.
Surtout que c'est un peu faux parce que, enfin, un point que j'aurais dû aborder tout à l'heure par rapport aux footballeurs, les ultras, c'est que les ultras, des supporters de football, mais en fait en Égypte c'était un lieu de socialisation, et un peu comme les mosquées c'est des lieux où on fait de la politique, les stades de foot c'était des lieux où on fait de la politique, on a des slogans politiques qui sortent d'abord dans les stades de foot, et là récemment les ultras se sont constitués en partie l'UTS, donc l'Ultra Tahir le groupe quoi, et donc ce qui fait que en particulier la provocation qu'il y avait eu au stade de foot, c'était gros, parce qu'ils avaient fait cette réunion des ultras, qui n'étaient plus des groupes qui s'affrontaient, mais qui étaient ensemble, en fait.
Qui étaient solidaires.
Voilà. Et donc, il y a bien cette constitution de parti, il y a une politisation parmi les ultras, quand même.
Oui, et parmi les ouvriers, il y a quand même... En un an, il y a eu 2 millions de 2 millions d'ouvriers qui ont adhéré à des mouvements syndicaux en un an, donc c'est assez énorme. Et en fait, il y a clairement un problème de communication en fait entre les deux, entre ces deux
mondes. Je précise, quand je parle des ultras, les gens qui regardent le foot, c'est des classes populaires. Alors bien sûr, ça se recoupe sur les gens qui sont ouvriers, qui vont dans des syndicats, ou parfois les étudiants, mais c'est pas des mondes séparés.
Oui. Tout à fait. Non mais c'est vrai que du coup, c'est marrant parce que en 68 en France c'est un peu ça qui s'était passé aussi. Il y avait un
côté pédant chez les étudiants.
Voilà, hein. Là en Égypte, les ouvriers ont d'autres choses à dire que comme tu disais tout à l'heure, on n'a pas faim. Voilà, c'est ça, c'est pas juste c'est pas juste un problème de ce qu'ils vont mettre dans leur assiette pour manger. C'est aussi il y a des vraies revendications politiques et en fait les mouvements étudiants et des jeunes révolutionnaires entendent pas forcément ces revendications-là, en tiennent pas forcément compte on pourrait dire que la révolution égyptienne cherche sa deuxième étape, et il y a eu une première révolution et maintenant il faut repasser à une deuxième étape, et certainement que l'union entre les ouvriers et les étudiants pourrait être une bonne solution pour...
Ouais, parce que là ce que je comprends c'est qu'ils ont envie de sortir du cadre du réformisme et changer ce que proposaient encore les étudiants quoi,
Et en même temps, c'est un langage nouveau. C'est pas, personne va utiliser le langage de mai 68 ou je sais pas du socialisme ou quoi. Et donc c'est une définition de ce qu'ils veulent, des revendications, sans se coller forcément à les soi-disant démocraties d'Europe. Où on voit bien que c'est pas vraiment des démocraties non plus. Toute une construction donc, avec pas mal d'enjeux.
Voilà.
Mais la révolution continue. On conclut là-dessus ?
Jusqu'à 19h, sur Panthère Rouge, sur Radio Campus. Take them away.
candles through the wasted. There's no guarantee, yeah. Smile is in the making. You gotta fight the powers that be. Daddy, baby, baby. Yeah. Even you and I can't fight the power. Come on. Fight it. Fight the power. Fight. Fight the baby, baby, baby.
Émission Panthère Rouge, Radio Campus. Et nous continuons avec Julien Salingue. Bonjour Julien.
Bonjour.
Alors tu es enseignant à l'Université d'Auvergne. Tu es aussi l'auteur du livre À la recherche de la Palestine au-delà du mirage d'Oslo. Et en plus d'enseigner, d'écrire des livres et de répondre aux journalistes de RFI, du Monde ou de Radio Campus par exemple, tu travailles sur une thèse dont le sujet est le mouvement national palestinien et les dynamiques politiques, sociales et économiques en Palestine. Et alors c'est dans ce cadre, donc le cadre de tes travaux de doctorant, que tu faisais partie des organisateurs d'un colloque universitaire la semaine dernière, les 27 et 28 février à Paris 8, dont le thème était « Israël, un état d'apartheid ?» point d'interrogation. Colloque accepté par le président, puis annulé ou délocalisé, relocalisé et redélocalisé à la Bourse du Travail. En tout cas, le colloque a bien eu lieu. On va en parler juste avant. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi cette organisation fut si compliquée, quelles ont été les causes de tous ces rebondissements.
Au début, les choses étaient assez simples, c'est-à-dire que le projet de colloque a été présenté à l'université, il a non seulement été approuvé, mais même financé, puisque le FSDIE, donc qui est le Fonds de soutien de développement des initiatives étudiantes, a débloqué 2500 euros pour organiser le colloque. Donc tout allait très bien jusqu'au 17 février, c'est-à-dire 10 jours avant l'événement, où sans même décrocher son téléphone, le président de Paris 8 a, par mail, fait savoir aux organisateurs du colloque qu'il retirait son autorisation puisque des faits nouveaux avaient été apportés à sa connaissance et qu'il y avait donc un risque de trouble à l'ordre public si jamais le colloque se tenait dans l'université. Donc à partir de là, nous, on a essayé de comprendre de quoi il s'agissait. n'ayant pas eu d'explication très sérieuse de la part de l'administration de la fac, on a été amené à en déduire que c'était parce que le CRIF, entre autres, avait demandé l'annulation du colloque publiquement et avait dit qu'il risquait d'y avoir des troubles à l'ordre public.
Donc le CRIF, excuse-moi.
Le CRIF, donc le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui est plutôt maintenant le Conseil représentatif d'Israël
en France.
Et nous, on en a déduit que ça devait être ça qui avait conduit le président à retirer son autorisation.
Et donc vous aviez décidé de faire le colloque quand même, mais de le faire à la Bourse du Travail ?
Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a quand même un peu mobilisé autour de nous. Il y a eu une lettre ouverte au président de Paris 8 qui a été signée par plus de 500 universitaires, chercheurs, enseignants et autres. Les organisations syndicales de la fac ont pris position en notre faveur, etc., etc. Et devant cette pression qui montait, le président nous a proposé d'organiser le colloque à l'extérieur de l'université, donc à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Donc c'est une proposition qui est venue de lui et que nous avons refusée, puisqu'il nous semblait totalement inopportun de considérer qu'un colloque où des universitaires, des spécialistes, des chercheurs viennent présenter leurs travaux doivent se tenir dans une Bourse du Travail. Moi, je prends mon cas, j'ai enseigné pendant 3 ans à Paris 8, je suis diplômé de Paris 8, et en gros, mon président m'explique que mes travaux, je ne peux pas les présenter dans mon université, mais dans une bourse du travail. Donc nous, on a dit qu'il était hors de question qu'on délocalise la chose. Et pour finir, on a annoncé que malgré l'interdiction, le colloque aurait bien lieu à l'université, en appelant les gens à venir à l'université. Et en réponse à ça, le président a tout simplement fermé administrativement la fac les 27 et 28 février, donc tous les cours annulés, etc. Il a pris la décision le dimanche 26, donc la veille, de fermer l'université. Et donc ça nous a contraint, nous, du coup, à nous replier sur la Bourse du Travail, parce que bien évidemment, on n'allait pas fracasser les portes de l'université pour tenir un colloque dans une université déserte.
D'accord. Mais ouais, c'était un peu osé quand même de vouloir... En fait, vous prévoyez le fait qu'il allait fermer l'université, ou c'était quelque chose que vous aviez envisagé ?
C'était une hypothèse, voilà, on était quelques-uns à penser qu'il serait peut-être capable d'aller jusque-là, parce que en réalité, il était très isolé dans l'université, parce qu'en 2 jours, on a plus de 1000 étudiants qui ont signé une pétition de soutien pour le colloque, il y a 4 départements de la fac qui ont pris position pour le maintien du colloque,
et justement,
les associations, etc. Donc en réalité, nous, on avait bien conscience qu'on avait, entre guillemets, le rapport de force avec nous pour, malgré l'interdiction, tenir le colloque à l'université, en s'installant dans un amphi et en tenant le colloque, et que le président n'aurait pas la capacité, en raison de son isolement, de faire fermer l'amphi ou ce genre de choses. Mais bon, bah, finalement, il, conscient du fait qu'il n'aurait pas les moyens d'empêcher la tenue du colloque, il a préféré fermer la fac.
Bon, mais alors,
c'est grave.
C'est clair. Et donc, on va parler du colloque, on va essayer de comprendre pourquoi il fallait absolument éviter qu'il ait lieu à la fac. Alors, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez pu traiter du thème choisi ? Donc la question, est-ce qu'on peut qualifier Israël d'état d'apartheid ? Est-ce que vous avez tranché ?
Ça s'est très bien passé. Ça a été la démonstration de 2 choses qu'on disait et qu'on répétait depuis le début. La première, c'était que ce colloque intéresserait les gens. Et on a eu 200, 250 personnes qui sont passées sur les 2 jours, ce qui pour ce type d'événement est quand même un chiffre assez significatif. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on avait toujours dit que ce colloque était pluriel, qu'il posait une question: Israël est-il un état d'apartheid? Et parmi les intervenants, il y a différentes approches, il y a eu différentes réponses qui ont été abordées, et il y a eu échanges, confrontations de points de vue, et des débats qui étaient somme toute assez riches, fournis, et où il y avait la rigueur scientifique qu'on revendiquait dans l'organisation de cet événement. Et donc la conclusion du colloque, ça n'a pas été de dire oui ou non Israël est un état d'apartheid, mais par contre ça a été de dire que dans l'analyse de la situation des Palestiniens, dans l'analyse de la politique israélienne, interroger le paradigme d'apartheid, comme on dit en science, avait quelque chose qui permettait d'enrichir considérablement l'analyse de la situation là-bas.
Bon, mais vous n'avez pas eu de trouble à l'ordre public, par contre ?
Ah non, il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public, il n'y a eu absolument aucun problème. Bon. Personne n'est venu perturber le colloque, nous n'avons pas troublé l'ordre public non plus. On a regretté que que nos détracteurs et tous ceux qui disaient qu'on n'était pas des vrais scientifiques et qu'on fait de l'idéologie ne soient pas venus assister au débat. Ça leur aurait permis peut-être pas de changer de point de vue, mais au moins de se rendre compte qu'ils nous avaient fait un mauvais procès, et puis éventuellement de confronter les arguments, parce que c'était aussi l'occasion de faire ça, mais bon, bah, ils sont pas venus. Hein. Mais non, il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public, contrairement peut-être à ce que souhaitait le CRIF. Voilà, ça a été la démonstration qu'on peut débattre très sereinement de ces questions-là, entre universitaires, étudiants et aussi des militants, sans qu'il n'y ait de dérapage ou sans que nous troublions l'ordre public. Voilà.
Et donc, le mystère reste entier sur les troubles qu'il y aurait pu y avoir. En fait, il n'y a pas de danger aujourd'hui en France à aborder de tels sujets.
Bah non, moi je pense pas qu'il y ait de danger. Je pense que ce qui est dangereux, c'est quand on peut plus aborder un certain nombre de sujets. C'est là où il y a un vrai problème. Mmh. Et là, en gros, ce que certains ont voulu nous expliquer, c'est qu'il y a des questions qu'on n'a pas le droit de poser à l'université, en agitant la menace d'un trouble à l'ordre public. Alors de quoi il s'agissait? Dans la bouche du président de Paris 8, il nous a expliqué que le trouble à l'ordre public, ça pouvait aussi être immatériel, et c'était que ça pouvait troubler les esprits des gens.
Il y a
des gens qui étaient choqués de l'intitulé même du colloque, qui étaient choqués que ça puisse se dérouler dans une université, et que ça avait pesé dans sa décision de ne pas vouloir héberger une telle initiative. Et c'est quand même assez... C'est quand même assez révoltant de se dire qu'un président d'université s'arroge le droit non seulement de décider quelles questions peuvent être posées dans sa fac, mais surtout s'arroge le droit d'interdire de fait à des étudiants ou à des personnels universitaires de venir exercer leur esprit critique en assistant à des débats, en participant à des discussions dont le but est d'enrichir la réflexion et pas d'imposer des points de vue. Donc voilà, c'est un précédent assez fâcheux, ce qui vient de se passer là. Malheureusement, ça s'est produit dans d'autres sites universitaires, à l'ENS, à l'EHESS, à l'IEP de Lyon, qui a été fermé vendredi aussi parce qu'il y avait un débat sur le même thème qui avait été accepté, puis l'IEP a été fermé. Donc c'est pas très rassurant sur le climat délétère qui peut régner chez certains partisans de la politique de l'État d'Israël. À la limite, qu'ils soutiennent l'État d'Israël, moi je m'en fiche, c'est leur droit, mais qu'ils empêchent, au motif que ça pourrait choquer les gens, que des réunions de ce type-là puissent se tenir, là on est quand même dans des procédés qui sont plus que contestables. Quoi.
Et alors, en fait, cette histoire n'est pas terminée. Vous donnez une suite juridique, non?
Oui, l'histoire n'est pas terminée, parce que déjà il y aura d'autres initiatives du même type. Hein. Vu le succès de celle-là et vu la publicité qui nous a été faite, on est motivé pour recommencer. Et puis surtout, on avait déposé une plainte au tribunal administratif en référé liberté qui doit juger sous 48 heures. On n'a pas gagné au tribunal administratif parce que, c'était l'argument du juge, le président nous proposait une autre salle, donc il n'y avait pas d'atteinte grave et manifeste à la liberté d'expression. Mais sur le fond, rien n'a été tranché, donc on va déposer une plainte sur le fond, donc ça va prendre du temps, 2 ans, 3 ans, à être jugé, mais pour abus de pouvoir, et donc qui aura pour objectif de porter la question devant la justice et devant un tribunal de « a-t-on le droit ou non d'interdire des initiatives au motif qu'elles posent des questions qui visiblement dérangent certains ». Mais ça va prendre plusieurs années quand même.
Alors tu insistes sur... la réaction un peu des présidents d'université, mais je voulais te soumettre une réflexion qui est plutôt inverse. Alors en ce moment, sur les places publiques des grandes villes, on voit surgir des citoyens qui réclament la démocratie, comme si les masques étaient tombés et que les vieux systèmes ne savaient plus faire illusion. Et je trouve intéressant cela, parce que on voit cette soif de démocratie et en même temps une sorte de sursaut qui sort les peuples d'un certain immobilisme. Et l'opposition que vous avez eue face au président de Paris 8 me fait penser à une moindre échelle à ça, parce que non seulement vous avez dénoncé la décision surprise et injuste de refuser le colloque, mais vous êtes allé plus loin en décidant de faire le colloque quand même à la fac. Alors voilà, je vais te poser la question, n'y a-t-il pas dans votre obstination une volonté de sortir de l'immobilisme, de dépasser ça?
Oui, il y a peut-être ça. Il y a peut-être un point commun avec tout ce qui est le mouvement des indignés, etc. C'est de se réapproprier l'espace public et de refuser qu'on confisque la parole publique. Voilà, donc c'était aussi dire on maintient à l'université, c'était dire bah, on se réapproprie notre université malgré les positions autoritaires de son président. Donc oui, il y a une volonté derrière ça, parce que c'est un collectif d'étudiants hein, qui était à l'organisation de ce colloque. Moi j'ai filé un coup de main, mais c'était un collectif d'étudiants de Paris Vite qui l'a organisé. Et oui, derrière ça, ça s'inscrit dans un contexte plus général, où il y a de plus en plus de gens qui disent on a le droit de prendre la parole, on souhaite que les discussions puissent être menées publiquement, et personne ne nous interdira ni de faire de la politique, ni de nous approprier les espaces dans lesquels on évolue au quotidien, que ce soit les places publiques ou les universités publiques.
Bon, bonne continuation dans toutes ces actions. Merci à toi, Julien.
Merci, à bientôt.
À bientôt. L'émission Panthère Rouge se termine. Alors,
nous avons entrecoupé nos propos de musique, donc The Voice of East Harlem, Right on Be Free, The Isley Brothers Fight the Power, et nous écoutons Mulatu Aztec. Aztec.
La prochaine fois, on demandera à Nina de nous dire les noms, ça sera peut-être.
Et de mieux écrire.
Bon, alors, avant de se quitter, je vais vous donner quelques dates à bien marquer sur votre agenda. La première, mardi 6 mars, Assemblée citoyenne publique d'échange et de débat à l'initiative d'Ater Écolo, du NPA, de la gauche et de Alternative. Bon, bref. D'Ater Écolo, NPA, gauche anticapitaliste, Alternatif et Phase. Alors, ça se passe où? Ça se passe à 20h15, salle 5 du Centre Jean Richepin à Clermont-Ferrand, mardi prochain donc. Ensuite, mercredi, vous allez faire un petit rassemblement à l'initiative de RUSF 63 et c'est le rendez-vous 17h30 devant la fac de lettres. Ah. Et le 15 mars, surtout, ne manquez pas, à la fac de lettres également, François Chénet qui intervient avec les temps des cerises sur son livre « Les dettes illégitimes ». Et c'est à 20h30. Alors nous, on va remercier grandement Julien Salingue d'être intervenu avec nous par téléphone et également Nina pour la technique. Merci Nina. Cette émission a été réalisée par Lise, Claire, Clément et Nina donc à la technique. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, surtout,
ne lâchez rien.